Non, avec Jean-Stéphane Bon. Bonjour Jean-Stéphane.
Bonjour.
Quel enthousiasme. Ça va bien, il fait grand beau. Ça s'annonce bien pour ce soir. La Madonna del Sasso a prévu une météo clémente. C'est pour The Deal, série destinée à la télévision, une coproduction entre Bande à part et la RTS. Alors, on vous connaît comme documentariste, on s'est souvent rencontrés, que ce soit pour Christophe Blocher, pour bien sûr le scandale des fiches, pour les subprimes, entre autres. Hein.
Oui.
Et là, tout d'un coup, une série télévisée, c'était un saut à franchir.
Un saut, un désir, et en même temps quelque chose de très naturel, parce que dès le moment où j'ai eu l'idée, vraiment, enfin, je pense que pour tous ces projets que vous venez de citer, documentaires, qui sont des projets un peu de longue haleine, hein, je ne tourne pas en 6 mois, c'est des projets qui, en général, prennent une année, 2 ans, 3 ans. Mais quand on s'engage, c'est vraiment s'engager dans une sorte de dialogue avec soi-même sur le long terme, s'affronter aussi avec voilà, la réalité, comment est-ce qu'on la raconte. Mais quand on est mordu, c'est une sorte de l'idée première, c'est une sorte de diamant comme ça qui pas encore, on sait qu'il est là, on sait qu'on va pouvoir vivre avec et qui est central, essentiel et qui va un peu vous dévorer, mais on sait qu'on va pouvoir s'embarquer pour une très longue période et que on va tenir le coup. On va pas abandonner. Et c'est un peu la même chose, vraiment au moment, l'idée d'imaginer une série autour de ces négociations qui s'étaient tenues donc à Genève au fil de différents rounds. Hein, ça s'est pas fait comme dans notre série, on a tout réinventé en 10 jours, mais sur plusieurs rounds, des fois quelques heures, des fois quelques heures à l'aéroport, des fois dans des hôtels, des fois dans des lieux plus intimes ou secrets. Je savais que je tenais quelque chose qui me ressemblait, que j'aimais faire, filmer les coulisses de la politique, dévoiler des choses, faire comprendre des choses. Et il y avait quelque chose d'un peu paradoxalement, alors qu'on a fini avec une série totalement, enfin, tout est devenu un peu démesuré parce que voilà, c'est moi, normalement, je tourne avec, quand on est trois, ça me paraît déjà énorme.
Oui,
Donc,
12 monde.
et là, on a fini à, enfin, je pense que j'ai compté l'autre jour juste pour voir, parce qu'on regardait je crois que 250 personnes, voire
Voilà.
plus, sans les acteurs, ont travaillé sur la série.
Et alors, il y a tous les étoiles de l'Occident qui sont pris. En tout cas, c'est un diamant brut qui a été magnifiquement taillé. Vraiment, on est pris comme ça, on est happé par l'écran, par l'histoire, par le montage qui est extraordinaire, par la distribution. On est dans les coulisses de la politique, les coulisses du pouvoir. Et là, on se retrouve en immersion. C'était le but de mettre en immersion le public, n'est-ce pas?
C'est exactement ça. C'est vraiment, moi, c'était comme qu'on. Vraiment, j'avais une idée, un peu une obsession, c'était la vitesse, le rythme. Et ce rythme devait être porté par l'actrice principale qui s'appelle Verley Bettens, que peut-être des gens connaissent, voilà, elle a fait des grands films, elle a fait beaucoup de séries,
Qui est chef de protocole.
qui est chef du protocole et qui a un travail de l'ombre dans l'ombre. Hein, parce qu'une négociation, ça se passe hors des caméras, hors des micros, hors du regard public.
Hors des médias.
Hors des médias, mais dans cette ombre, il y a encore une autre ombre qui est le travail de facilitation de cette diplomate suisse qui, subtilement, en passant de l'un à l'autre, d'une délégation à l'autre, etc., essaye aussi de tirer les ficelles pour trouver des solutions. En gros, il faut que tout le monde reste autour de la table et il faut qu'on trouve un accord. Et son travail, c'est un peu comme dans une famille, on va dire, d'essayer que petit à petit les gens puissent s'accorder.
Là, je l'ai presque vu comme une horlogère qui permet que les aiguilles tournent ensemble, que les rouages s'emboîtent bien, parce qu'il y a pas, il y a sur des couacs. Entre autres, là, il y a forcément les États-Unis à la table de négociation, évidemment l'Iran, et puis il y a des invités surprises, on ne va peut-être pas dévoiler leur présence, mais enfin, qui sont censés compromettre les accords, faire capoter les négociations. Et on est immergé dans toutes les strates, même auprès de ces taupes.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on a à la fois inventé, mais enfin, nous, on
Qui
était,
existe.
qui a existé, nous, on était vraiment comme des. On est scénariste, donc on invente, on reconstruit, on réinvente, mais quand même, on l'enseigne au filet, et chaque fois qu'on tombait sur un fait, que ce soit autour, je donne un exemple, mais sur quelque chose, on va dire, qu'on a développé de manière intime, on n'a aucune idée de comment ça s'est passé dans la réalité, on a changé les noms. Il s'agit d'une fiction. Mais une des diplomates américaines et d'origine juive, on en a fait quelque chose dans la fiction. pour toutes les raisons qu'on connaît, l'Iran, Israël, etc., et la complexité de la violence de leurs relations, elle, on l'a su, parce qu'on a lu ses mémoires à cette diplomate, que cette question de ses origines a été, pour elle, quelque chose qui était comme une sorte de double pression. Comme si elle devait être fidèle, non pas à celui qui la mandatait, c'est-à-dire l'administration américaine, le président des États-Unis, comme fidèle à une origine.
Une loyauté à ses ancêtres, voilà, qui ont survécu à la Shoah.
Et donc ça, on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant pour un personnage. Ouais. Peut-être qu'elle l'a vécu complètement différemment et que c'était même pas une question. Ouais. Mais nous, on s'est dit, ah tiens, ça, pour notre personnage, c'est intéressant. Et donc ça, c'est au niveau personnel. Et puis après, on est tombé, oui, sur un tout petit article dans le Guardian, quelques mois, hein, qui était écrit quelques mois après, tout était déjà signé, dans la deuxième partie à Vienne, etc., comme quoi certains hôtels en Suisse auraient été hackés par les services secrets israéliens. Évidemment, si un scénariste tombe là-dessus, il veut en faire quelque chose, et on en a fait quelque chose. Évidemment, le réinventant, évidemment, en changeant, on ne sait pas comment les choses se sont passées exactement, mais en s'inspirant de ça. Et puis, il y a des choses qui sont d'ailleurs au cœur et qui est presque le moteur de la série, qui est une histoire d'amour, on va dire, un peu contrariée, qui traverse toute la série. Et bien ça, évidemment, elle est complètement inventée. On n'a pas rencontré de diplomate suisse qui sont tombés amoureux d'un délégué. Voilà. Donc ça évidemment, c'est le romanesque et le goût du romanesque qui l'a emporté.
Ou des responsables du Trésor américain qui cèdent aux avances d'une prostituée.
Ça aussi, évidemment, on l'a inventé. Mais on sait, par contre, c'est ce qui est certain, c'est que les diplomates, en général, sont des cibles. Si on compromet quelqu'un, on peut obtenir des renseignements. Enfin, voilà. Donc les diplomates, oui, ça, on sait qu'ils sont sujets à différentes suggestions,
sollicitations,
etc. Et que, comme le dit un des personnages dans le film, c'est courant dans ce genre d'événement. Mais évidemment, là, on en a fait encore une fois, on a tout inventé, on en a fait une histoire de fiction. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Y a paradoxalement des anecdotes totalement réelles, notamment une histoire de table que les Suisses ont dû arrondir les angles. On l'avait écrit, c'était dans le premier épisode, et en fait, il y avait un aspect de comédie pure. Puisque l'anecdote, je vais vous la donner, c'est que les Américains sont venus plus nombreux que l'élection iranienne, sans avertir, évidemment, pour faire un effet de surnombre et avoir une sorte de comme le power play en hockey sur glace, tout le monde peut le comprendre. C'est quand on est en surnombre, évidemment, on a plus de chances de marquer un but. Donc, psychologiquement, etc. Et évidemment, les Suisses ont dit, mais attendez, ça, on ne peut pas tolérer, etc. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une table, on arrondit les angles, et ça adoucira l'effet de surnombre en mettant des Américains un peu sur les côtés, comme ça. Bon, cette anecdote-là qu'on nous a... quasiment la seule vraiment qu'on nous a raconté vraiment de première main, finalement, voilà, elle n'entrait pas dans la fiction.
Mais c'est très beau, symboliquement, arrondir les angles, Jean-Stéphane. Je reprends deux choses que vous avez citées. D'abord, le rythme, qui est vraiment... c'est magnétique. Vraiment, on est soutenu, on est pris. C'est haletant. Ça, c'est, je pense, dû aussi à un montage exceptionnel. Et puis, l'autre chose, c'était par rapport à cette distribution tellement importante. Vous étiez aussi comédien avant d'être réalisateur. Est-ce qu'il y avait un travail de direction de comédien très difficile ?
Alors, je pense qu'avant la direction d'acteur, je pense que le casting, en fait, le choix de chacun jusqu'au dernier figurant, qui serveur ou tout petit rôle.
Le chien.
c'est vraiment, vraiment. Moi, j'ai comme. En fait, je pense que j'ai une attention particulière au corps politique. Alors, je m'explique un peu, c'est que moi, j'ai non seulement. Posé des questions à des politiciens pour faire large, mais surtout observer l'action, on va dire, de la politique sur le corps et j'ai passé des heures comme au Parlement suisse, j'ai passé des heures dans la voiture de Christophe Blocher, j'ai passé des heures dans les coulisses d'un opéra qui, d'une certaine manière, est aussi une institution
Paris.
Politique. Vraiment, comment ça se déplace, comment ça bouge, comment c'est en mouvement, comment on fait un petit conciliabule, et donc...
Il y a une chorégraphie.
Voilà, en documentaire, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le moment où le visage va raconter un truc, un silence, comment le corps raconte vraiment ce qui se dit à l'intérieur, qui est muet, ouais, le non-verbal. Et ça, moi, ça me, c'est ce qu'on cherche quand on fait un documentaire, que le spectateur puisse être proche du personnage parce qu'il l'observe comme on observe un humain qui est en train de nous livrer ses secrets et intimes. Et donc, au sens vraiment que le corps livre des choses, raconte quelque chose. Et donc ça, je pense qu'on a vraiment été très patient pour que le couple, d'ailleurs, d'abord fonctionne, ensuite les gens autour, les délégations, les Américains, les Iraniens, les Israéliens, etc., que chaque corps soit juste. Et qu'on puisse acquérir... Je dis, alors, eux, ils ont beaucoup travaillé, mais qu'au premier regard... Le spectateur se dit, oui, j'y crois, c'est une grande diplomate américaine. Oui, j'y crois, c'est une diplomate européenne.
Un
ingénieur. Et c'est un ministre. Donc, il y avait vraiment un travail, je me souviens, dans la posture de celui qui joue le ministre des Affaires étrangères iranien. Il y avait un truc, je disais, mais gagne en confiance, tiens-toi droit.
Une prestance.
Il faut qu'il y ait une prestance, une élégance, il y a un truc, etc. Et je pense que j'étais attentif à ça, en tout cas. Plus encore, les dialogues, c'est très important, mais c'est vraiment le... Je pense que si le corps, c'est juste, les mots viennent assez facile, assez justement aussi.
Oui, effectivement, il y a une chorégraphie entre toutes ces personnes. Je dis bien personne, parce qu'on y croit, ce ne sont pas des personnages, ce sont des personnes pour le public. Et en fait, ça devient organique, tellement ça fonctionne entre eux. Il y a un côté, vraiment, une dimension organique. Pour revenir aussi... au non-verbal, il y a quand même, quand c'est verbal, il y a quand même plusieurs langues. C'était difficile à gérer, toutes ces langues, le farsi, l'anglais, le français. On sent qu'il y a d'autres personnes qui parlent encore d'autres langues.
Alors,
j'ai
adoré ça. Alors, évidemment, on voulait que tout le monde joue dans sa langue, hein, qu'on ce serait pas l'anglais pour tout le monde avec un petit accent. Mmh. Donc, les Iraniens parlent en farsi,
on parle les Israéliens en
hébreu, etc. C'était assez. Disons, il y a eu un travail jusque sur le plateau avec chacun pour vraiment écrire, réécrire pour que les dialogues soient dans une sorte de. Voilà, qu'ils puissent être dire vite.
Fluidité
et vitesse. Et une des actrices, formidable actrice, Fenella. Woolgard, qui est l'actrice anglaise, qui joue la diplomate anglaise, elle vient de la comédie, elle vient vraiment d'un tout autre.
Comme Marcon d'ailleurs.
Ouais, mais vraiment de la comédie pure, etc. Et elle a eu un plaisir, en fait, à vraiment réécrire avec moi sur le plateau, en disant attention, mets ce mot-là, etc. Comme ça, je pourrais le dire encore plus vite, tu verras, là, je pourrais faire la pause et tout. Parce qu'elle a une sorte de technique qui était vraiment assez. Vraiment. Fascinante à observer, et vous parlez du montage, c'est arrivé, mais je sais pas combien de fois, où avec les monteurs, on regardait les performances en se disant, mais ces acteurs sont incroyables,
c'est
incroyables.
Parfait.
C'est ce qu'ils donnent là sous nos yeux, c'est juste incroyable, bouleversant.
Bon, c'est qu'il y avait quelqu'un magnifique derrière la caméra pour les filmer, pour aussi poursuivre dans cette dimension à la fois politique. Politique en coulisses, vraiment le pouvoir de ce qui se trame à l'insu du public. Il y a aussi la dimension de sphère privée pour plusieurs des personnages. Et ça, c'est important de montrer que malgré les négociations, malgré l'intensité de cette implication, ils ont tous leurs problèmes en dehors et ça les implique encore plus. On voit qu'il y a une fatigue qui s'instaure au fil des jours. Physiquement, ça se voit.
Oui, et nous, on avait un mot-clé pour chaque scène, c'était négocier, deal, négociation. Mmh. Et même dans leur vie intime, on s'est dit, il faut quelque chose qui ait à négocier. Mmh. C'était vraiment quand on peut se perdre à un moment donné. Donc, chaque scène, je me disais, ah mais oui, mais en fait, le cœur de ça, c'est quand même négocier. Et effectivement, une des diplomates, donc la diplomate américaine, sa mère voilà, décline et perd la tête et potentiellement voilà, décline beaucoup. Et elle essaie de gagner du temps. Et c'est vraiment négocier du temps pour essayer de la voir ou de la revoir et d'être présent. Donc, ça met une sorte de pression. Hein. Faut qu'elle finisse vite pour qu'elle puisse rentrer vite, aller voir sa mère. Et pareil pour le ministre des Affaires étrangères iranien. il a une fille. Cette fille est une étudiante engagée pour la liberté. Et évidemment, c'est un peu le pire qui puisse lui arriver. Et comment il doit négocier avec elle pour qu'elle ne le compromette pas. Voilà. On s'est dit pour chaque personnage, faut qu'on. Évidemment. Alexandra Weiss, notre personnage principal, doit négocier avec cet amour, cet ancien amour qui débarque au milieu des négociations et qui va lui poser pas mal de problèmes.
Bah, surtout cet ancien amour qui a fait une prison, torturée, pour ne pas la compromettre. Donc elle sent aussi qu'il y a une dette envers lui, mais c'est pas si facile à obtenir d'avoir une escape plan.
Exactement. Donc, nous, c'était dans la deuxième partie. Hein, donc, les trois premiers épisodes, c'est vraiment à huis clos, etc. Le 4, on est toujours dans l'hôtel.
Mrs. Nobody, l'ingénieur.
Ouais, dis donc, vous avez une bonne mémoire.
On va voir la suite. Guerre froide.
Guerre froide.
Escape plane.
Le match. Yeah. Voilà, exactement.
Et le dernier.
C'est le match.
Ouais, alors l'avant-dernier, parce que c'est passé tellement vite, j'ai pas pu. Pourtant, j'étais éveillée hein, jusqu'à la
ouais,
fin.
Ouais, ouais, non, je vous crois. Le 5, je ne sais plus le titre. C'est
vraiment... Allez voir la série, regardez la série, vous aurez tout.
Absolument.
Et donc, justement, on voit ces implications. Il y a diverses strates. Il y a la dimension négociation, la dimension internationale, le résultat qu'on va obtenir, la dimension sphère privée.
Non, mais il y en a aussi une autre. Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui a aussi inspiré de nos lectures. Il y a aussi les pressions extérieures. C'est-à-dire, il y a ce qui se passe dans la salle et les pressions qu'on essaie d'avoir les uns sur les autres. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de l'autre? Jusqu'où on peut aller? La menace de partir, la menace de tout... De dire, ben, nous, c'est notre ligne rouge, on n'ira pas plus loin, etc. Donc tout ça...
Les journalistes qui fuient un peu.
C'est à l'intérieur des salles. Mais il y a le monde qui continue de vivre et les pressions extérieures... la géopolitique s'est fait de ça, c'est-à-dire qu'on négocie un accord à Genève, mais si on bombarde pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Quelle influence ça va avoir? Et ça nous était quand même beaucoup inspiré par... Il faut se rappeler qu'une partie des négociations se passe pendant la guerre en Syrie, Bachar al-Assad est encore au pouvoir, il bombarde sa population, et une partie des démocrates... dans le camp Obama qui voulait obtenir un accord avec l'Iran commence à dire attendez vous êtes sûr que vous voulez négocier avec les alliés d'un dictateur qui bombarde sa propre population donc à tous les niveaux dans tous les camps il y a eu du tiraillement de dire qu'est-ce qu'on fait et ça c'est les pressions extérieures.
On a oublié les Russes dans l'histoire.
Les Russes, les Chinois qui étaient présents, nous on trouvait intéressant qu'ils soient présents, mais on peut dire que vraiment là il faut à la fois simplifier pour pouvoir rester complexe dans une histoire comme ça. Il faut garder quelques éléments pour pouvoir les complexifier, mais si on rend tout complexe, je pense que ça devient un peu difficile à comprendre, donc on a dû, simplifier, mais l'essentiel, et même des choses assez complexes sur, je sais pas, l'enrichissement de l'uranium, etc., comme on a, c'est aussi un dialogue technique d'ingénieur, et que un des personnages principaux est un ingénieur, ça nous intéresse aussi que le spectateur puisse comprendre, s'engager. Qu'est-ce que c'est d'enrichir à 3%? C'est pas la même chose qu'à 20%. Qu'est-ce que c'est voilà. Donc ça, on avait un souci aussi du détail.
D'authenticité.
On était aidé par des chefs de protocole qui ont pu nous raconter l'histoire de voitures, de plaques, de comment on s'adresse les uns les autres dans un restaurant quand on est seul. Qu'est-ce que c'est qui demande à se voir à deux, tous ces formats à l'intérieur d'une négociation, ça nous paraissait intéressant de les montrer.
Et par rapport à cette partition à plusieurs mains, l'écriture, comment a-t-elle fonctionné, Jean-Stéphane ?
Alors ça, c'est vraiment un travail. C'est pour ça que je pense que moi, ça va. J'adorerais refaire une série demain et écrire une série demain.
On l'attend.
Oh, alors avec plaisir, mais c'est justement, c'est pas un travail solitaire. C'est un travail de confrontation d'idées, on se
D'échange.
challenge, d'échange, etc. Même si j'avais avec Alice Vinocourt une sorte de la vision à long terme, et je pense qu'elle était très importante pour garder un peu le cap, de dire attention, faut que ça te ressemble. Voilà, l'humour, aussi le côté, la légèreté, enfin tout ça. Il y a plein des lignes qu'on abandonne, trop compliquées. Attention, faut essayer de garder le huis clos, pas faire trop d'histoires autour, etc. Ça, chacun a amené sa pierre à l'édifice et vraiment ça fonctionne par couche, quoi. Une première couche, bon, c'est pas terrible, c'est pas encore très bien, mais on commence à voir un peu les personnages. Une deuxième, on dit ah tiens, mais si ça, c'était voilà. Et puis petit à petit, jusque sur le plateau, on a écrit, 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 réécrit pour vraiment être à l'os et de se dire bon ben là. Et surtout moi, je m'étais dit, s'il y a une scène si je vois pas comment la mettre en scène, je me dis c'est faut laisser tomber. On la coupe, puis ça marchera quand même.
Jean-Stéphane, je rebondis sur vos propos. Ça rappelle ce que vous disiez en début d'entretien. C'est ce diamant brut où le joaillier va le travailler, le préparer pour le diamantaire. C'est ce que vous avez fait avec ces éliminations, ces conservations d'éléments.
Non, c'est vraiment ça. C'est qu'au départ, on avait vraiment une sorte de trame, parce que c'était donné par la réalité, des négociations qui ont eu lieu, on a quand même beaucoup, beaucoup d'informations, etc. Donc, un premier temps déjà de réduire ça, comprendre les enjeux aussi, parce que je pense que les dynamiques politiques, par contre, elles, sont très réalistes, très, très vraies. On les a évidemment conflictualisées, on les a fait plus fortes, plus ceci, etc. Mais ce dilemme chez les démocrates qui négociait à ce moment-là, il est très réel. En fait, ce qui est une vraie question qu'on connaît tous aujourd'hui, parce qu'on l'a entendu 100 fois à la radio, à la télévision, ou l'a lu dans les journaux, entre négocier ou sanctionner. Bon, on y est. Donc, et ça, ce sera encore pendant. Donc, cette question-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sanctionne et on négocie pas? Puis on attend que c'est par la sanction qu'on va arriver au résultat, ou c'est par le dialogue? Et on a voulu mettre ce conflit au sein de la délégation américaine. Du côté de la délégation iranienne, on a essayé de mettre un conflit entre forces progressistes, forces conservatrices. Et le débat, il y avait un débat fort au sein de la société iranienne sur qu'est-ce qu'on fallait négocier avec les Américains, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que voilà, et notre indépendance, etc., etc. Donc, on a essayé qu'à chaque endroit, il y ait la complexité de mettre en lumière tous les aspects, on va dire, et au sein de chaque personnage aussi, d'amener de la complexité.
Et comme il me semble que c'est le ministre des Affaires étrangères qui le dit, si on sanctionne trop, parce que quand il sait qu'il doit céder sur certains éléments, c'est la population qui va payer. Et puis il y a toujours la menace des gardiens religieux, des guides. D'ailleurs, il y en a dans l'hôtel. Et ça montre aussi qu'il y a une dimension humaine énorme qu'il ne faut pas négliger.
Oui, je pense que vraiment les chiffres qu'on cite, c'est des chiffres qu'on a vérifiés. À ce moment-là, les sanctions ont des effets extrêmement durs, extrêmement violents sur les populations, hein. Je pense que tout ce qui s'est. Pour donner un exemple récent, je pense que vraiment la question là, c'est la Syrie, c'est-à-dire oui, on sanctionne un pays, mais enfin ceux qui payent le prix très lourd de ces sanctions, c'est les enfants, c'est les gens qui ont du mal à se nourrir, à se soigner, etc. Donc la sanction, c'est une arme, mais c'est une arme qui a des conséquences, pas forcément sur ceux qu'on veut atteindre. Donc voilà, moi je pense, oui. Je pense, si je devais être d'un parti, ce serait celui de la négociation, du dialogue, etc. Même si aujourd'hui, on peut le voir comme une sorte d'utopie, presque d'un truc qu'on se dit, mais quand est-ce qu'on va se reparler à plusieurs? Puisque la norme, c'est devenu la menace directe, le rapport de force brut,
Et faire céder le.
et comment on va faire céder l'autre? Et on voit bien qu'on est passé dans un autre monde.
Jean-Stéphane, en plus d'être vraiment féru de politique, l'analyse du poids du pouvoir, des négociations, vous avez un regard de sociologue?
de sociologue, de psychologue,
d'anthropologue peut-être,
d'anthropologue, non, je sais pas, de zoologue. Non,
Et d'économiste, parce que vous avez mis The Deal comme titre, à moins que ce soit un clin d'œil à Donald.
Alors, c'est vraiment, alors lui, il nous a vraiment volé la vedette, parce que je pense que the Art of the Deal, évidemment, on pense à ça maintenant, mais pour nous, The Deal, c'était vraiment l'accord, quoi, au sens, la concorde, à un moment donné. On s'est mis d'accord sur quelque chose. C'est peut-être le plus petit dénominateur commun que chacun peut accepter vis-à-vis de l'autre, sans perdre la face, sans, etc. Mais voilà, il y a eu un accord à un moment donné. Et cet accord, il était respecté. Ça, c'est les faits. C'est juste factuel. Et cet accord a été déchiré de façon unilatérale par Donald Trump en mai 2018. Et à ce moment-là, tout le monde s'est senti libre et plus tenu cet accord. Et je pense que là aussi, la question de l'accord, quand je disais, soit pour éviter les guerres, soit une fois qu'elles sont terminées, on négocie. Il y aura toujours besoin de diplomates, de négociateurs, de gens qui devront se mettre autour d'une table. Et quand on n'arrive pas à se mettre autour d'une table, en général, ça finit mal.
Alors, Donald Trump, donc vous a piqué la vedette, mais en même temps, il n'est pas aussi bon pour le reste, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Vous avez choisi 6 épisodes, c'était prévu dès le départ?
Oui, tout à fait, c'était une contrainte un peu, on va dire. Donc la série, elle est née aussi par la volonté de la RTS, qui ouvre des concours, hein, qui sont ouverts aux indépendants comme moi, qui peuvent proposer un sujet, déjà une esquisse de personnages, et donc ont vraiment soutenu le développement très fortement, donc, au fil de 2 phases. Hein, ça aurait pu s'arrêter après la première, ils ont été d'accord de continuer. Et puis après, on a continué à écrire, hein, pendant encore presque 3 ans, avec le soutien d'Arte, d'autres chaînes, de Bandapart, de gens qui se sont engagés aux côtés de la RTS. Mais enfin, le moteur principal au départ, c'était vraiment la télévision suisse. Et je ne me souviens plus de votre question, mais...
Je disais, oui, que les 6 épisodes étaient prévus.
Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'était donné, il fallait écrire pour 6 épisodes. Et oui, c'était une contrainte qu'on a eu du plaisir à honorer, parce que c'est toujours bien les contraintes, ça oblige.
Et Jean-Stéphane, que vous avez magnifiquement honoré, franchement, moi je reste encore... J'avais peur de m'assoupir, parce qu'on a tellement un programme chargé à Locarno. J'ai vu les 6 épisodes hier soir, ça a fini à 1h30, et j'aurais pu continuer, faire la nuit entière. Il y en aurait eu 12, je restais. Et franchement, magnifique. Il y avait quelques Iraniens dans la salle qui ont dit, mais ce qu'il décrit de la réalité de la police religieuse, du traitement qu'a infligé aux opposants politiques, est tellement vrai qu'on était glacés en tant qu'Iraniens. Bravo. Par rapport à la diffusion, votre série elle est disponible à partir de mercredi sur la RTS. Ce soir, c'est la Piazza Grande. La Madonna del Sasso a prévu un beau soleil, un beau temps, pas d'orage. Dites un peu aux téléspectateurs, téléspectatrices, comment ils pourront profiter de cette série.
Alors, sauf erreur, elle sera diffusée à partir du 14 août ou 12, là, vérifier,
12.
Information à vérifier, 12, sur le RTS Play. Et ensuite, à partir du 28 août, 2 épisodes par semaine. Donc ça commence le 28, semaine suivante. 2 épisodes par semaine en linéaire, donc en direct à la télévision. Et puis il y aura possibilité de rattraper sur Play RTS et aussi sur Play Suisse. Et puis après, alors ceux qui ont vraiment raté le truc, ils pourront encore le voir sur Arte quelques semaines plus tard.
Ou aller à la Cinémathèque.
Ou aller à la Cinémathèque le 28 août, exactement, où on diffuse 2 épisodes pour le public et pour faire de nouveau un événement collectif. Quoi.
Vous allez échanger là-bas aussi avec le public, leur raconter ce que vous venez de nous dire dans ce travail en amont colossal.
Oui, alors moi j'ai beaucoup de plaisir en général à échanger, à répondre aux questions que je trouve toujours... je trouve que c'est aussi... hier soir, je présentais un autre film et les questions des spectateurs m'ont vraiment interrogé sur la fin. Je me suis dit, tiens, est-ce que je ne changerais pas un tout petit truc à la fin, vraiment rien, mais pour que cette question-là, qui n'est pas une bonne question, ne se pose pas. Donc le dialogue avec le public, c'est toujours bien.
Jean-Stéphane, on a compris qu'il y avait beaucoup de travail en amont, qu'il y avait cette écriture à 4 mains, qu'il y avait tout le travail avec l'équipe artistique, l'équipe technique aussi, très colossale. Comment on ressort d'une telle expérience?
Alors moi, j'étais vraiment très heureux pendant le tournage. C'est pas toujours le cas quand je tourne, parce que voilà, un documentaire, faut tout le temps. Il y a un truc assez violent parce qu'on ne maîtrise pas tout. Là non plus, bien sûr, mais quand même, j'étais vraiment assez prêt dans ma tête et je sentais que les étoiles étaient alignées. Je peux vous dire autrement, je
Avec
sentais
tout.
que, ouais, que le casting était. Je faisais vraiment confiance aux acteurs et aux choix qu'on avait faits. Bien sûr, je pourrais me tromper dans une direction, etc., mais que je savais que eux, ils seraient là. Tout le monde avait un truc à défendre. Et je pense qu'aussi le fait que on tourne au moment où les choses se retendaient au Moyen-Orient, violemment, et qu'on fasse une série de négociations, de diplomates qui allaient trouver un accord. Je pense que vraiment tout le monde, du régisseur jusqu'aux petites mains des habilleuses, jusqu'à toute l'équipe artistique, etc., se sentait très concerné et très impliqué, avec beaucoup de sérieux, sans esprit de sérieux. Et franchement, c'était génial.
J'entends qu'on doit bientôt vous quitter. Jean-Stéphane, il y a deux programmistes qu'on a oubliés. Les Rives du Léman, premièrement. Et ce magnifique hôtel, on ose dire qu'il s'agit de la Villa Monrepos.
Ah non?
Là, non. C'est vraiment l'hôtel.
Non, 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 non,
Beau rivage.
y a plein. En fait,
Il y a plein d'éléments.
il y a plein d'éléments. On avait promis à tous les hôtels, il y en a 7 en tout. On avait promis que
Je suis tombée dans le panneau.
on recomposerait un truc, un hôtel un peu imaginaire,
Oui.
jusqu'à effacer des trucs. Et voilà, de toute façon, pour pas grand-chose aujourd'hui, pour pas cher, on modifie pas mal de choses à l'image. Et on a fait un hôtel un peu imaginaire qui s'appelle Grand Rivage, qui est au bord du lac.
Et que je peux pas, enfin, je peux pas louer de chambre là-bas, puisqu'il y
Ah
en a
non,
sept.
ça va être compliqué.
Ça va être cher
Pour
surtout.
les 7 chambres. Pour
Voilà,
les, oui.
ça va être compliqué. Et pour le Léman, lui, c'est le bon Léman que je connais.
Alors, c'est le bon Léman, vu à des distances des fois un peu bizarres,
Différente, oui.
mais voilà, c'est comme ça.
Des vues très picturales, avec le jet d'eau, avec bien sûr le soir, le matin, à l'aurore, c'est magnifique. Bravo, on vous souhaite une bocca al lupo, comme on dit en italien, pour ce soir.
Je
Et
prends.
crepi il lupo.
Crepi il lupo.
Et voilà, et on se réjouit, moi je me réjouis de revoir ces épisodes à la télévision.
Ah, merci, c'est
Ben,
génial.
merci beaucoup Jean-Stéphane, bravo,
Merci à vous, merci
bravissimo.
pour votre fidélité.
Merci Jean-Stéphane.